Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
On est en octobre, c'est le rendez-vous tech numéro 426. On va vous parler de réseaux sociaux très différents, du réseau le plus secret de l'histoire. Et oui, on a aussi des annonces matérielles intéressantes et intrigantes, comme le HTC Vive Flow, des films d'horreur écrits par des IA, de la surveillance et de la reconnaissance faciale partout, et tout le reste de l'actu tech. Et j'ai laissé le plus important pour après le générique, c'est le grand retour de Jeff Clavier qui a été absent pendant 6 mois. Bon, c'était de ma faute, hein. C'était quand la petite ne dormait pas encore bien. C'était compliqué de faire des horreurs qui... Des horreurs. Des horaires qui collaient avec la Californie. Comment ça va, Jeff? Est-ce que tu es en forme?
Alors, tu me dis que ça fait 6 mois que je suis pas là, que c'est une horreur, c'est ça?
Mais c'est exactement ce que je dis, tu m'as tellement manqué, j'avais, tu sais, un petit, une boule dans l'estomac, et là, tout à coup, je me détends, ça va beaucoup mieux.
Ok, donc c'était pas une erreur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est un grand plaisir de vous retrouver tous et toutes sur le Rendez-vous Tech. Moi aussi, j'étais assez busy ici en Californie, donc on se retrouve et ce qu'on fera en fait dans l'année qui vient, c'est je vous rejoindrai quand nos calendriers seront compatibles.
Ouais, et on essayera de faire en sorte que ça soit le plus souvent possible, puisque ton expertise de VC de la Silicon Valley nous est toujours précieuse. Une autre personne qui nous est toujours précieuse, c'est Marion, qui elle était bien présente, sauf quand elle était en vacances en Italie avec ses photos merveilleuses sur Instagram. Comment ça va, Marion? T'es bien en forme?
Hello, bonjour à Jeff et toi Patrick, ravie de vous retrouver et en forme, enfin presque en forme, j'ai un petit rhume, mais écoute, après les vacances, ravie de vous retrouver.
Je ne ferai pas la plaisanterie vaseuse de te dire qu'il faut mettre un masque quand tu as une maladie pour que ça se transmette pas dans le podcast, parce que les micros, tout ça, non, c'est pas drôle. Un truc, par contre, qui est absolument formidable, c'est les patriotes, comme par exemple, au hasard, Diane Gasselin, Tony Light, Yann B. et Nicolas Martin, qui soutiennent l'émission et que je remercie du plus profond du cœur, et aussi les producteurs Stéphane Lioret et Stéphane Grégory Sattal, et deux Stéphane, le duo de choc, qui sont tous allés sur patreon.com/rdvtech pour devenir patriotes de l'émission et bénéficier des bonus absolument incroyables que vous pouvez avoir en soutenant le Rendez-vous Tech. On en dira plus dans quelques instants. Et puis, l'autre truc que je dois raconter aux auditeurs, c'est qu'on a planifié enfin, après 6 mois d'absence de Jeff, on a réussi à se trouver des horaires qui collent avec les enfants qui dorment à tel ou tel moment, avec Jeff qui est dispo avec son emploi du temps chargé. Et on l'a fait le lundi soir, heure de Paris, le lundi fin d'après-midi. Et on s'est dit, ok, ça va être bon, ça va être cool, ça va être super, on va pouvoir parler de tout. Et Apple a annoncé, genre, il y a 3 jours, que leur conférence, leur deuxième conférence de printemps, aurait lieu littéralement 1 heure après l'enregistrement de cet épisode. Ils l'ont fait exprès parce qu'ils savent que nous, on n'est vraiment pas tendres, on dit les choses comme elles sont et on est impitoyable avec Apple. Donc, ils se sont dit, ok, quand est-ce qu'ils font leur émission? Mettez ça 1 heure plus tard. Vous êtes certains qu'ils ne peuvent pas bouger l'horaire d'enregistrement? Très bien, c'est parfait. Bah, écoutez, c'est pas grave, on va le faire quand même comme ça. Donc, on va dire
non, du même. Ils avaient quoi sur le banc de Boutique, donc ça veut dire qu'ils ne savaient pas que j'étais là. Autrement, ils n'auraient pas fait ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Marion, tu peux le voir aussi comme les grands esprits se rencontrent avec le meilleur jour pour faire la keynote ou l'émission. Écoute,
c'est vrai, c'est vrai. Mais le pire, c'est que généralement.
Tu n'as pas fait mardi,
Mais généralement, ils le font, ils font mardi leur conférence, tu sais. Ils font mardi soir. Et nous, on enregistre généralement l'émission le mardi. Sauf que là, on s'est dit, on enregistre le lundi. Et ben, ils ont dit, OK, ben, on va le faire lundi aussi. Donc, oui, il y a peut-être quelque chose, effectivement. C'est pas tout à fait. Bon. Mais du coup, il y a aussi, en fait, c'est vraiment la semaine des conférences. Aujourd'hui, c'est Apple. Demain, c'est Google avec le Pixel et le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, dont on sait beaucoup plus. Et puis, il y a Samsung qui a annoncé un event Galaxy Unpacked Part 2. Pour mercredi, donc c'est vraiment la semaine des events. On aura beaucoup de choses à dire la semaine prochaine. Là, en deux secondes, et encore une fois, vraiment, on va faire deux minutes dessus parce que quand vous écouterez cette émission, la conférence aura déjà eu lieu. Mais ce qu'on attend dans la conférence Apple, c'est des MacBook Pro qui seraient 14 et 16 pouces avec des meilleurs écrans, 120 Hertz, peut-être un notch avec une webcam sur l'écran, mais avec la résolution qui serait une résolution classique avec quelques pixels en plus pour pouvoir avoir le menu dans la partie du notch. Enfin bref, on ne comprend pas bien, mais quand ça aura été expliqué tout à l'heure, on comprendra mieux. Mais du coup, moi, je vais faire une chose, c'est que je vais prédire une annonce surprise d'Apple et vous pourrez savoir immédiatement si ça s'est réalisé. À mon avis, le truc qu'ils vont annoncer, en plus des AirPods 3, des Mac Mini redesignés, tout ça, et du lancement de macOS Monterey, ce qu'ils vont annoncer, c'est une intelligence artificielle modelée sur l'esprit de Steve Jobs. Et ils vont vendre en NFT chaque phrase que dira cette intelligence artificielle aux enchères. Là, ils sont pile dans l'air du temps. Je pense que ça ne peut pas mal se passer. Steve Jobs artificiel, c'est l'annonce surprise de la keynote Apple. Non, ça vous...
Je pense que t'as un an d'avance, Patrick. Tu sais que Apple est toujours en retard par rapport aux autres boîtes.
C'est vrai, c'est vrai. Donc l'année prochaine, OK, peut-être.
Bon. On va marcher sur la COVID là, avant de... De commencer le rendez-vous tech.
T'as quoi, pardon ?
Forcé sur l'aquavit.
Et la fatigue des enfants de 3 ans et la folie des NFT dont on entend parler partout, tout le temps, ça peut donner des mélanges un petit peu explosifs. Mais écoute, moi, je pense qu'avec leur nouveau processeur M1X Pro et Max, ils pourraient faire tourner ça sur chaque Mac. C'est-à-dire, bon, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, il pourrait vous donner votre propre Steve Jobs personnel sur chaque Mac. Non, toujours pas convaincu, Jeff. Okay. Bon.
C'est vrai que mon partenaire Andy attend les nouveaux MacBook Pro avec une impatience. Il nous fait chier tous les 15 jours en disant « Quand est-ce qu'il vient ? J'en ai marre. » Donc,
voilà, il va être trop tard ce soir. Très bien. Ouais. On envoie une bise à Andy. Du côté des pixels, il va y avoir, alors on en a déjà parlé la semaine dernière, un capteur photo 50 mégapixels, un ultra-wide 12 mégapixels et un téléphoto 48 mégapixels sur la version Pro, les fonctions Magic Eraser, des floutages, tout ça, on en parlait. Mais il y a le Pixel Pass qui a été leaké, qui est une sorte de réponse à Apple One, en quelque sorte. En gros, c'est un abonnement qui donne accès à les appareils, c'est-à-dire qu'ils sont renouvelés, c'est pas inclus dans Apple One ça, mais les appareils sont renouvelés avec les dernières versions tous les ans, et en plus vous avez les abonnements à YouTube Premium, enfin bref, tous les abonnements classiques qui sont inclus dans votre Pixel Pass. C'est si ça se concrétise, c'est un truc intéressant de la part de Google. Bon, ça construit, c'est intéressant surtout à mon sens parce que ça construit quelque chose de solide autour de la marque Pixel, et ça confirmerait un petit peu le retour de l'engagement de Google dans cette marque de Pixel, dans cette marque Pixel, et dans l'intention de la continuer à la vendre et de s'en occuper pendant un moment, parce que ces 2-3 dernières années, on n'était plus trop sûr. Mais bon, à voir si ça se confirme. Et enfin, Samsung, le mercredi, ce qu'ils disent, c'est, alors ça va être des updates de personnalisation de nos appareils, donc on n'attend pas énormément. C'est un petit peu surprenant qu'ils restent du côté de ce... Enfin, on ne savait pas qu'Apple allait l'annoncer. J'allais dire, généralement, les gens essayent de s'écarter quand il y a une annonce Apple. Mais donc, ça serait des mises à jour des appareils Galaxy et des mises à jour de personnalisation. Donc voilà, on n'attend pas quelque chose d'incroyable de la part de Samsung. Donc, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ces 3 conférences qui, encore une fois, auront lieu dans les jours à venir. Donc, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter, je vais vous parler de Raya. Est-ce que ça vous va ?
Ouais, juste une petite remarque sur l'événement d'Apple. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment ils vont présenter la mise à jour des Macs. Ils vont laisser tomber pas mal de choses qu'ils avaient introduites sur la génération d'avant. Juste d'un point de vue marketing et sur comment ils vont le présenter.
Sur le matériel, tu veux dire, parce qu'effectivement, on a entendu que
Exactement.
la touch bar disparaîtrait, on aurait les ports qui reviennent, un port MagSafe, un port SD card,
Exactement.
etc. Ouais. Ah oui, ça, c'est soit ils en parlent pas, enfin, on en parlera la semaine prochaine, on passera ça en revue, mais soit ils en parlent pas du tout, soit comment tu peux le présenter? C'est compliqué pour Apple qui aime jamais dire on s'est planté. Donc,
Je pense
c'est
que
une
c'est
autre
aussi
question.
intéressant d'apprendre des utilisateurs, quoi, tout simplement.
Ouais, mais généralement, c'est pas un truc qu'ils aiment admettre chez Apple. Ils font des changements parfois, mais là, ça a l'air d'être vraiment un retour en arrière complet par rapport à la génération précédente qui n'avait que des ports USB-C. Elle avait quatre ports USB-C et c'est tout, et le port jack pour les écouteurs. Mais
Moi, c'est surtout la Touch Bar qui me fait rire là.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça a pas pris. Peut-être que tu sais, Tim Cook va arriver sur scène, il va dire: bon, écoutez, on a essayé, personne s'en sert. Ça sert à personne, personne l'aime. Au pire, vous la tolérez. Donc, ok, on va la virer. Peut-être qu'il va dire ça. On ne sait pas.
Ça serait cool. Je haïs ce truc. Je haïs ce truc.
Tu
C'est vraiment le truc
hais ce truc. Oui, t'es pas le seul. Généralement, les gens la détestent. Moi, bon, ça me dérange pas plus que ça. Je la tolère, voilà. Mais
Moi,
jamais
je
je me suis
n'utilise pas
dit.
en fait.
Mais c'est ça.
Je mets toujours ma MacBook Pro sur un stand. Donc en fait, j'ai un clavier traditionnel en face de moi.
Mais moi-même qui utilise mon
Ouais, mais
MacBook
quand
Pro.
tu utilises ton MacBook Pro, surtout le petit 13 pouces, et que tu fais des fat fingering, tu vois, tu tapes sans faire attention, tu te retrouves à sauvegarder, envoyer tes emails avant qu'ils soient prêts. Enfin, c'est vraiment une horreur. C'est une horreur.
Moi, je dois avouer que sans la détester autant, à aucun moment de ma vie, je me suis dit: ah, c'est vraiment cool d'avoir une touch bar. Jamais. Au pire, c'est genre, bon.
Le seul truc qui est pratique, c'est quand tu es dans Zoom, et malheureusement, on passe toute notre vie dans Zoom aujourd'hui, pour faire le muting de la vidéo ou de l'audio, ça c'est pratique. Mais il faut que tu aies sélectionné l'application pour que ça marche.
Ouais.
Donc franchement, c'était mal designé, c'était mal foutu, et
Bon, on va voir si ça se trouve, ils
pauvre.
vont la garder. Hein. C'est des rumeurs qui vont la virer, mais on ne sait
Ah
pas.
non, arrête, tu as brisé le cœur de Jeff là.
Mais il aura la réponse dans 1 heure, donc. Les réseaux sociaux dont je voulais parler, c'était d'une part Raya. Alors, on va expliquer un petit peu l'algorithme de TikTok dans 1 minute, mais Raya, c'est un article du New Yorker qui me l'a fait découvrir, et pourtant je suis généralement l'actu de la tech d'assez près, et je ne connaissais pas Raya, qui est une application qui existe depuis 6 ans, si je ne m'abuse. Et c'est une application de réseau social qui, à la base, était un truc de dating, de rencontre, on va dire. Mais aujourd'hui, ça a un petit peu évolué et ça s'est transformé. C'est l'application la plus exclusive dont j'ai entendu parler, en fait. Il faut, quand on la télécharge, alors c'est un mélange entre Twitter, LinkedIn, Tinder, un petit peu, on va dire. Et quand on télécharge l'application, en fait, on ne peut pas l'utiliser. Il faut envoyer une demande d'acceptation. Il faut envoyer une candidature, en fait. Et les candidatures sont étudiées et étudiées par les gens de la boîte pendant parfois des mois. Ça prend des mois pour avoir une réponse. Et tout le monde est la personne enfin, il n'y a pas d'anonymité, en fait. Il n'y a pas d'anonymat. C'est vraiment tout le monde est clairement identifié sur Raya. Et en plus de ça, ils ont une politique comment dire, de tolérance zéro par rapport aux problèmes qu'on peut généralement retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit des contenus controversés, des choses de l'agression, du harcèlement, tout ça. Ils ont tolérance zéro. Et une fois que vous êtes sorti de l'app, c'est-à-dire que c'est immédiatement banni, et une fois que vous êtes sorti de l'app, c'est sorti pour toujours. C'est-à-dire que vous avez quelque part un vrai risque à être pas correct ou ne pas suivre les règles de l'application. Et je pense que la raison pour laquelle l'application est la plus séduisante, c'est qu'il y a plein de gens connus sur l'application. Dans l'article du New Yorker, il parle notamment de Ben Affleck qui a discuté avec quelqu'un et la personne ne croyait pas que c'était Ben Affleck, donc elle est allée en parler sur Twitter. Parce qu'elle en a trop parlé sur Twitter, elle a trop mis l'application Raya en avant, bah elle s'est faite virer de Raya parce qu'on est censé ne pas trop en parler. On peut en parler ici ou là, mais pas publier le contenu de l'app ou ce genre de choses. C'est pas non plus l'omerta, quoi. C'est pas une société secrète, mais ils apprécient quand même un petit peu de discrétion. Et donc, il y a plein d'acteurs qui sont sur l'application et qui l'utilisent fréquemment. Alors moi, je ne peux pas vous révéler si oui ou non je suis sur l'application Raya, si j'ai été accepté. Un indice que je peux vous donner, c'est que je n'ai pas été accepté et je ne me suis pas, enfin, je me suis pas inscrit hein, du tout. Donc, vous pouvez essayer de comprendre si oui ou non je suis actif là-dessus en comprenant ça. Mais le concept me paraît intéressant en fait. Il y a déjà eu des applications qui essayent d'être privées pour votre cercle de personnes connues dans la vraie vie, ce genre de choses. Là, ils prennent ça tellement à l'extrême qu'ils mettent en fait une valeur, un risque dans le fait d'utiliser cette application de manière peut-être pas recommandée. Et je suis curieux, c'est un concept qui m'intrigue parce que c'est la première fois que j'entends parler d'une application de réseau social, parce qu'à la base, c'est ça, hein, c'est un réseau social, qui réussit à faire la police sur son réseau. Et peut-être que la vie privée extra... Enfin, comment dire, le réseau le plus privé possible est un moyen de rendre ça possible, justement. Qu'est-ce que vous en pensez d'une application comme ça? Je ne sais pas si ça a une valeur, mais tout de suite, quand on me dit « Non, tu ne peux pas rentrer », moi, je me dis « Ah, mais attends... Monsieur, mes potes m'attendent à l'intérieur, je vous assure. C'est ce genre de réaction que j'ai immédiatement et j'ai envie de faire partie du groupe. Marion, est-ce que ça te dirait d'aller voir du côté de Raya ?
Absolument pas. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand même, ils ont un business model autour d'un abonnement de 9,99 $. Donc, parce qu'en fait, moi, la première question que je me pose, c'est mais en fait, c'est quoi leur business model ?
Bien sûr.
C'est pas une forte croissance des débuts de réseau social. Qu'est-ce que ça va être ? Donc, en fait, eux, ils ont déjà quelque chose en place qui est donc un abonnement payant. Donc, ils ont quand même réussi à attirer des personnalités suffisamment attrayantes pour le grand public pour avoir des demandes d'installation et donc pour monétiser. Alors, je ne sais pas s'ils ont un essai d'un mois gratuit ou quoi que ce soit.
Pas du tout, pas du tout.
Ouais, je ne pense pas, parce que vu avec leur politique de modération et d'acceptation des profils, ça ne semble pas très, très cohérent. Mais je serais curieuse d'en savoir plus sur comment exactement ils se sont lancés. Est-ce qu'ils ont fait des événements ? Comment ils ont réussi à démarrer avec les premiers utilisateurs ? Parce qu'en fait, dans l'article, ils se défendent un petit peu d'être une application de dating pour célébrités. Mais en fait, quand tu vois quand même le prix de 9,99 $ par mois, plus le fait qu'ils mettent pas mal de temps à valider, tu te poses quelques petites questions. Et moi, ça ne m'intéresse pas de rencontrer des célébrités. Donc, en fait, autant te dire que je suis pas dans la cible.
C'est pas de rencontre de célébrités. Hein, c'est juste le... Enfin, à la base, c'était un petit peu de rencontre et ça reste certainement le cas aujourd'hui. Mais ça a l'air d'être un petit peu plus de réseau social de discussion. Bon, il faut matcher les gens avec qui on va parler. Donc, il y a peut-être un petit peu de ça, mais... D'après ce qu'il raconte, c'est aussi networking pour le boulot. Bon, ça t'intéresse peut-être pas plus que ça non plus.
Quoi. Ouais, ça me fait rire ça. Alors l'article il commence quand même par l'histoire de dating de Ben Affleck. Hein.
Il faut
quand même pas se mettre des œillères. Puis l'espèce de oui, il faut que ça matche, etc. C'est de la rhétorique d'app de dating hein, quand même. Donc, après, ils peuvent se dire « Ah non, mais nous, on a une cause beaucoup plus noble de générer des discussions sur des centres d'intérêt et du réseau professionnel. Mais, » mais bon, t'as quand même matché la personne.
Ouais.
Pas, j'y crois pas. C'est qu'il faut avoir un angle, en fait, pour que les gens comprennent rapidement ta proposition de valeur et que ça matche ou pas, quoi.
Ils ne donnent pas de chiffres sur le nombre d'utilisateurs qu'ils ont. La seule chose qu'ils disent, c'est qu'ils ont eu 1 million de demandes d'ici la fin de... Ils auront eu 1 million de demandes d'ici la fin de l'année. Donc voilà, ça vous donne une idée à peu près. Je ne sais pas combien de gens ils ont accepté sur ce million, mais ils ont eu 1 million de demandes. Jeff,
juste un petit point,
oui, vas-y, Marie.
Pour pas terminer, puis après je laisse Jeff enchaîner. La chose où on peut mettre peut-être l'accent, c'est que quand ils font une vérification d'identité, ils rigolent pas, parce que comme tu le disais, ils vont vérifier, mais en plus ils vont bloquer tout ce qui est usurpation d'identité, d'où la petite histoire de Ben Affleck où la personne n'y croyait pas et que si c'était bien lui. Donc en fait ils sont vraiment très très stricts, ce qui peut aussi comme tu le disais, hein, créer un sentiment de sécurité, rassurer, de voilà.
Mmh, ouais, tout à fait. Et c'est marrant parce qu'effectivement, la personne qui avait été matchée avec Ben Affleck l'a unmatchée. Et Ben Affleck, avec son compte, je crois que c'était sur Instagram, son compte officiel, il est allé lui parler. Il lui a dit « Mais pourquoi tu m'as unmatché ? C'était bien moi pourtant. »
Bon, c'est et derrière, il y a Jennifer Lopez qui fait la tête.
Non, mais peut-être qu'ils discutaient, tu vois, de complètement autre chose. Ça se trouve, ils discutaient de la situation du climat, tu vois, on ne sait pas. Bon. Jeff, est-ce que c'est un truc qui t'intrigue, ça ? Je vais te demander sur l'angle business, mais on va se dire 10$ par personne et par mois, c'est peut-être plus que ce qu'on peut générer par pub par mois sur une personne. Et puis, d'une manière générale, cette idée d'exclusivité, toi, tu navigues dans des cercles où j'imagine que ce genre de choses, ça peut avoir une certaine valeur. Qu'est-ce que tu penses de Raya, en fait ?
Bah, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant, donc déjà c'est un petit problème pour eux, parce que normalement je suis dans la target, dans la cible.
C'est plus Hollywood en même temps, hein, donc peut-être que c'est là-bas que ça, qu'ils ont fait leur croissance.
Ouais, mais si tu veux, il y a aujourd'hui les gens d'Hollywood participent énormément dans le monde de la tech. Tu les vois tout le temps participer dans les tours de financement en mettant des petits chèques, enfin des petits chèques pour eux. Et donc, t'as un gros crossover entre la tech et le monde d'Hollywood. 9$, si t'arrives à avoir une bonne rétention sur les gens que tu acquiers et qu'ils restent longtemps, 9$ ou 10$, c'est vraiment pas mal. Tu vois des services comme Calm, je crois que c'est 7$ ou 8$ par mois.
Comme ça, ouais. Calm, c'est de la méditation.
La méditation, donc c'est très populaire. On a une boîte qui s'appelle Hallow, H-A-L-L-O-W, qui est en gros Calm pour le monde de la prière, qui cartonne. Et ils ont, je crois que c'est 6,99$, enfin 7$. Donc c'est en fait pas mal en termes de monétisation. La grosse question, c'est est-ce qu'il va y avoir cette rétention et puis cet intérêt des gens. Quand j'entends ils ont 1 million de demandes, ouais, c'est pas mal, mais 1 million, c'est que dalle pour le monde du consommateur. C'est ça le problème. Et en fait, là où ce qui est intéressant, c'est que les gens veulent avoir un endroit assez safe où ils peuvent s'exprimer. Le fait qu'il y ait une vérification d'identité, en fait, ça c'est bien parce que c'est quelque chose qui est un gros problème sur les gros réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Et donc, pourrait y avoir un business, mais le fait de pas vouloir faire la promo du truc, c'est un gros problème parce que par définition, tu as besoin d'avoir de la promotion de manière à ce que les gens veulent rejoindre le service basé sur qui est-ce qui est. Soit c'est tes copains, soit c'est des célébrités, mais ils ont un petit problème où en fait, là où ils veulent assurer une certaine... en gros, ils veulent... amener la privacy d'un côté, mais ils ont besoin de développer le business et c'est toujours très compliqué. Donc, j'ai pas participé, je sais pas ce qu'ils font. En termes de business, s'ils arrivent à. Tu vois, c'est pas difficile. Hein. S'ils ont 1 million d'utilisateurs payants, c'est un business qui va faire plus de 100 millions de dollars de revenus. Donc, c'est très raisonnable. Ça veut pas dire que ce sera intéressant et que quelqu'un va vouloir les racheter ou qu'ils vont pouvoir aller sur les marchés publics parce que, ils sont dans un environnement où leurs compétiteurs, c'est des centaines ou des milliards d'utilisateurs.
Ouais. C'est peut-être pas leur optique hein, de faire une croissance de ce type-là. Enfin, clairement, ça n'a pas l'air d'être le cas parce qu'ils n'y sont pas du tout, comme tu le disais. Ils sont à un nombre d'utilisateurs qui est assez restreint et ils n'en parlent pas publiquement. Donc peut-être que l'idée, c'est de rester petit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette idée de réussir à résoudre le problème de l'anonymat, qu'amène l'anonymat ou le semi-anonymat sur les réseaux sociaux en général. Et je me demande si c'est possible à étendre au-delà d'une base d'utilisateurs relativement restreinte. Parce que si on parle de, je ne sais pas, quelques centaines de milliers, 100 000, 200 000 utilisateurs, à la limite, tu peux réguler ça. Mais si tu commences à étendre ça à plusieurs millions, dizaines de millions, centaines de millions d'utilisateurs, ça devient compliqué à modérer, quoi. Même en étant très strict, le problème, c'est que si tu vires quelqu'un et que c'était pour une fausse raison, enfin, pas une bonne raison, ou que les problèmes risquent de se poser à leur tour, comme ils se posent sur les autres réseaux sociaux. Mais il n'empêche, l'idée est intrigante. Il y a quelques... Je sais pas, j'arrive pas à définir à 100%, mais il y a quelque chose d'intrigant dans la manière dont ils ont approché le truc.
Tu veux avoir une invitation et tu veux aller voir, c'est tout ça, c'est ça. C'est mon Patrick, ça. Voilà.
Peut-être,
c'est
trop peut-être.
Long, c'est, t'as envie de faire partie du petit club privé. mais ce qui est intéressant, et c'est ce que l'article souligne bien, c'est le coût que représente toute leur équipe de modération, de validation de profil, etc. Et donc ça, moi, je suis assez curieuse de voir comment ils vont scaler ça, en fait. C'est parce qu'en fait, s'il n'y a pas de notion de croissance, c'est quoi leur plan pour le futur.
Bah,
sachant que la modération, tu as complètement raison, ça coûte énormément d'argent.
Ouais.
Je veux dire, j'avais des investissements dans le monde du social networking il y a longtemps, parce qu'on a arrêté, mais ça coûtait énormément d'argent d'avoir des dizaines ou des centaines de modérateurs qui essayaient d'enlever toutes les cochonneries que les utilisateurs étaient en train de télécharger. Ce qui est intéressant, je regarde leur profil sur Crunchbase, ils ont levé un tour de financement il y a 5 ans, ils n'ont pas relevé depuis, donc ça veut dire qu'ils doivent avoir trouvé un moyen donc d'être profitable, ce qui est génial, parce que être capable de faire tourner la boîte pendant 5 ans sans avoir besoin de financement, sauf si les financements n'ont pas été annoncés, ça veut dire qu'ils ont un modèle qui fonctionne, et la question c'est quelle sorte de scalabilité ils peuvent avoir, quoi.
Ouais, mais je crois que s'ils ont, par exemple, disons, je ne sais pas, 100 000 abonnés payants, 100 000, ça fait 1 million de dollars par mois. Si l'équipe est petite, bon, ça tient, quoi. Mais je voudrais, on va avancer, hein, parce que je veux parler de TikTok, mais je voudrais juste revenir sur la question de le club privé, et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, oui, évidemment, le club privé, je ne nie pas que ça a toujours son attrait chez certains, mais il y a aussi quand même, moi je suis sur Twitter tout le temps, c'est quand même un petit peu le merdier permanent, quoi. Il y a des bons côtés, et c'est pour ça que j'y reste, mais il y a aussi beaucoup de trucs de contenu de qualité, on va dire, très moyenne. L'idée d'un réseau social dont le contenu serait un petit peu plus contrôlé, moi, ça m'intéresse pour ça. Et si jamais la rétention, justement, j'imagine que c'est aussi, ça passe aussi par le contenu au-delà du matching pour les rencontres, parce qu'une fois que tu as rencontré la bonne personne, bah, tu n'es plus intéressé. Et peut-être, enfin, disons que s'ils réussissent à créer ça, ça m'intéresserait pour ça aussi. Pas juste parce qu'il y a la petite... corde
par-delà
laquelle on ne peut pas passer.
Tu peux avoir cette en quelque sorte auto-modération si tu fais attention à... Tu vois, moi, j'ai 200 personnes en follow sur Twitter, et en fait, ça me permet d'avoir pas un contenu d'énorme qualité, mais ça me permet en fait d'avoir des sources que j'ai choisies pour me fournir du contenu, et globalement, ça marche pas mal pour moi, et c'est un peu pareil pour Facebook.
C'est pas tout à fait la même chose. Moi, sur Discord, j'ai un truc de qualité. Sur Twitter, il y a toujours des trucs qui réussissent à couler dans ta timeline et qui te pourrissent.
Mais c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, c'est le but de Twitter, en fait. C'est là où on a deux politiques qui se contredisent un petit peu. C'est que Twitter, il doit balancer l'effet de te présenter du contenu qui te plaît, mais également te faire découvrir toujours du nouveau contenu, parce qu'en fait, sinon, tu risques de te lasser, etc., et pas découvrir de nouvelles choses. Et donc, en fait, du coup, potentiellement, ça va tendre vers du contenu qui est de moins en moins pertinent pour toi. Mais ça, c'est le problème pour tout réseau social qui grossit. Instagram, c'est la même chose. Rappelle-toi, là, c'est le moment un peu vieux con de l'émission. Rappelle-toi du lancement d'Instagram où tu suivais uniquement soit des artistes que tu appréciais, soit juste tes amis dont tu aimais les photos, parce que moi j'avoue que j'acceptais que ceux dont j'aimais les photos. C'est plus le cas aujourd'hui. Je peux te dire que la qualité d'Instagram, de mon flux Instagram, a baissé.
Mais c'est pas, en fait, c'est pas une question de taille, c'est une question de système de c'est leur rémunération, c'est qu'ils veulent te pousser. C'est l'engagement. Donc quand l'engagement est ce qui détermine la monétisation, t'as pas le choix, alors que là ils s'en foutent, puisque par définition c'est un système de souscription. Bon, on se pose toujours la question de qu'est-ce que tu peux avoir comme ARPU, de le revenu moyen par utilisateur sur ce type de plateforme. Et bon, objectivement, $120, c'est génial, donc ils n'ont pas besoin de se soucier de l'engagement, c'est vraiment la qualité de la communication. La grosse question, c'est comment tu fais. Il pourrait avoir un système où ils font de la méga promotion, mais qu'ils soient vraiment regardants sur qui est-ce qu'ils font rentrer sur la plateforme. Par exemple, ils pourraient dire il faut que 5 personnes sur Raya t'invitent avant que tu puisses avoir une invitation. Ce serait une barre monstrueuse, mais ils pourraient faire ça. De manière à ce que ce soit un système de cooptation. Parce qu'en fait, ce que vous regardez là, c'est l'équivalent des groupes Facebook privés où le modérateur va choisir de t'inviter, et typiquement, tu as un niveau de qualité de communication qui est super haut.
Et ben, en fait,
tu as ce système-là, de toute façon, qui existe sur genre de confiance, ce genre de choses, ces réseaux un peu fermés.
C'est en fait, vous avez raison, c'est le Discord de notre Patrick qui est tout aussi bien. Donc en fait, j'ai pas besoin de Raya du tout. C'est ça la conclusion. Le Discord existe déjà et j'en suis très content. J'envoie des bisous à tous les gens qui sont sur le Discord. Merci de m'avoir aidé à arriver à cette conclusion pourtant évidente. Parlons un petit peu de TikTok un instant. Il y a deux choses dont je voulais parler avant d'essayer d'expliquer l'algorithme de TikTok. D'une part, il y a un article hyper intéressant du Wall Street Journal qui parle de nombreuses jeunes filles et jeunes femmes qui ont commencé à développer des tics physiques, je veux dire une condition médicale, donc des tics, des mouvements un peu involontaires, des ce genre de choses. Et les docteurs de différents pays, les US en particulier, mais pas seulement, étaient hyper surpris et n'arrivaient pas à savoir pourquoi il y avait plus de jeunes femmes qui développaient des tics que généralement. Et en recoupant les différentes informations, ils ont réussi à se rendre compte que la chose qu'elles avaient toutes en commun, c'est qu'elles regardaient TikTok, elles regardaient beaucoup TikTok, et en particulier, elles regardaient les TikTok d'autres jeunes femmes qui parlaient de leur syndrome de Tourette. Je pense que tout le monde connaît le syndrome de Tourette, ce syndrome qui fait qu'on va dire des choses involontairement et avoir des mouvements involontaires qui est assez spectaculaire. Et c'est parfois d'ailleurs des syndromes de Tourette qui ne sont pas diagnostiqués correctement, qui sont peut-être juste des tics, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en parlent, et médicalement, le syndrome de Tourette est plus présent chez les hommes. Enfin bref, je laisse les docteurs arriver à leur conclusion, mais étrangement, les tics, si on voit beaucoup de gens qui ont des tics, en tout cas si on a déjà beaucoup d'anxiété et des problèmes latents, eh ben ça peut en fait se transmettre par simple, enfin c'est une sorte d'osmose quoi, on le voit et on en devient victime nous aussi. Ça se corrige très bien, mais tout ça pour dire que c'est par visionnage de TikTok que de plus en plus de jeunes femmes, alors quand on dit de plus en plus, c'est des chiffres très réduits, évidemment, ça touche peu de gens, mais à l'échelle des personnes qui ont généralement, qui présentent des symptômes de genre tic, généralement, eh ben, il y a eu une augmentation spectaculaire. Donc je voulais en parler, je trouve ça intéressant. Et puis l'autre chose, toujours sur TikTok, qui m'a interpellé cette semaine pendant ma veille, c'est une société qui s'appelle Forefront, quatre fronts, Forefront, et qui est en train de construire un univers de comptes TikTok écrits, scénarisés, avec des personnes qui jouent des personnes sur TikTok. Alors, c'est complètement ouvert, ils le disent très clairement, parce que c'est de la fiction, mais en fait, ils ont créé une nouvelle forme de storytelling, de raconter des histoires. Donc, ils utilisent TikTok comme média pour raconter des histoires, de la même manière qu'ils pourraient écrire des livres, faire des films, etc. Sauf que leur média, c'est TikTok. Et donc, il y a des personnes qui racontent leur vie, qui ne sont pas leur vraie vie, mais qui sont des personnages créés, scriptés, et qui ont gagné énormément de popularité et qui sont maintenant en train de faire des rencontres entre elles. Donc, c'est une sorte d'univers de pas de MCU, mais de forefront TikTok-ic universe. Et ils sont en train de se rencontrer, tout ça. J'ai trouvé ça assez fascinant, cette idée. Et comme je le disais, ils sont très clairs sur le fait que c'est de la fiction. L'idée n'est pas de tromper les gens, mais de proposer du divertissement. Ce que je remarque là-dedans, c'est que en ce moment, les choses intrigantes, intéressantes, parfois même peut-être inquiétantes, je trouve qu'elles se passent plutôt sur TikTok qu'ailleurs, ou en tout cas, cette semaine, c'était le cas dans ma veille. Et j'ai trouvé ces deux histoires hyper, hyper intéressantes. Et l'autre chose que je voulais parler, dont je voulais parler sur TikTok, et là je vais vous demander votre avis également, c'est Fada Vibre sur Discord, justement, on en parlait tout à l'heure, du Discord de l'émission, qui demandait... Mais, alors, je vais dire spécifiquement ce qu'il demandait. Pourrais-tu nous en dire plus à l'occasion pour qu'un béotien comme moi puisse comprendre en quoi c'est mieux que sur Facebook ou autre et ce que ça implique il disait dans le dernier épisode du Rendez-vous Tech, tu dis à nouveau que l'algorithme de TikTok est particulièrement perfectionné. J'y réfléchis. Et c'est évidemment, on n'a pas les détails de l'algorithme de TikTok et la manière dont il fonctionne. Mais je pense que tout le monde de la tech est d'accord pour dire que l'algorithme de TikTok est incroyablement efficace et je ne pense pas que ça soit une sorte d'illusion commune. Il y a vraiment quelque chose avec cet algorithme de TikTok. Et la manière dont j'essaierai de l'expliquer, c'est que sans graphe social, c'est-à-dire que même si on ne va suivre personne, il va réussir en nous présentant des vidéos particulièrement distrayantes, et ça c'est la première composante, il y a énormément de vidéos vraiment distrayantes, le format TikTok est hyper créatif, et je pense que c'est le format de contenu sur les réseaux sociaux le plus créatif que j'ai vu jusqu'à maintenant, donc il y a déjà beaucoup de contenu vraiment distrayant sur TikTok, et en quelques visionnages, il va pouvoir identifier les contenus qui vont nous amuser. C'est-à-dire qu'on va passer 10 secondes sur ce contenu, 20 secondes sur l'autre, peut-être regarder plusieurs vidéos de tel créateur, et en 5 minutes, il va déjà savoir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Moi, j'utilise TikTok alors régulièrement depuis un moment, mais je ne suis personne sur TikTok, ou peut-être 3 personnes, et je ne regarde pas vraiment leur TikTok, mais il l'a déjà identifié. Par exemple, il y a une sous-culture de TikTok qui est les blagues sur les langues. Et il y a des trucs très très bien faits, je ne vais pas essayer de vous raconter parce que ça ne passe pas à l'audio, mais il y a des trucs très bien faits où les personnes représentent différentes langues et disent des trucs sur le français, l'anglais, le suédois, le norvégien, le danois. Enfin, c'est super drôle. Et il y a plusieurs personnes qui font ça. Et immédiatement, il a trouvé ça et il m'en a servi de plus en plus. Et vraiment, en quelques minutes d'utilisation. Donc, je dirais que c'est comme ça que je définirais la qualité de l'algorithme de TikTok. Il va trouver tout de suite ce qui te fait rire et ce qui t'amuse et va t'en servir énormément. Et à la base, pour pouvoir faire ça, bah, le contenu est du contenu bien... Il y a beaucoup de contenu de qualité. Marion, est-ce que cette description correspond à ton expérience de TikTok ? Est-ce que c'est comme ça que tu pourrais expliquer l'algorithme ou tu aurais une autre explication ?
Pour être honnête, j'utilise pas vraiment TikTok et donc en fait quand j'utilise TikTok, c'est pour rattraper les comptes que je suis.
Donc tu es
absolument pas les recommandations.
Mais donc ouais, tu n'utilises pas du tout TikTok comme il faut. C'est tu passes à côté de la valeur de TikTok. Imagine-toi, tu pourrais perdre des heures et des heures à regarder ces vidéos inutiles sur TikTok.
C'est justement ce contre quoi je lutte au quotidien. J'en ai marre de perdre mon temps devant du contenu qui n'a aucun intérêt. Donc en fait, maintenant, j'essaie de choisir quitte à rater des choses, mais sinon, en fait, tu passes ta vie à regarder des tweets s'engloutir, des Instagram s'engloutir et pareil pour TikTok.
Est-ce que tu perds ton temps sur TikTok, toi, Jeff, ou c'est plus de ton âge, tu es bien trop âgé pour ça?
Ouais, je suis un vieux con, donc j'ai jamais en fait, ne serait-ce que downloadé TikTok. Je me suis posé la question un jour, me disant tiens, il faudrait quand même que je regarde. Et puis bah en fait, j'ai pas le temps, donc non. mais ma fille est très contente que je ne sois pas sur TikTok parce qu'au moins je la laisse tranquille. Alors que elle est toujours énervée quand je l'attaque sur Instagram ou sur Facebook. Et donc, je lui laisse Snapchat et TikTok comme son environnement à elle.
D'accord. Attends,
juste pour comprendre, Jeff, tu commandes pas les posts de ta fille quand même sur Instagram et Facebook?
Ah bah, des fois, je lui laisse des likes ou des loves parce que je suis un
non
mental. Yes.
le père cringe.
un like, ça va. Un like, ça va. Le commentaire, c'est peut-être un petit peu trop, mais.
Ah, c'est pas
like,
comme ma maman qui passe son temps à laisser des commentaires rigolos sur mon Facebook en français, alors qu'il y a, tu vois, plein de commentaires en anglais, bien seul coup. Bel homme. Ouais, maman, merci, mais bon, c'est peut-être pas la peine de dire ça.
Bel homme.
Tu y seras bientôt, Jeff. Méfie-toi, tu y seras bientôt.
ouais, ça risque de t'arriver aussi.
J'essaie de ne pas commenter sur. De toute façon, ma fille n'utilise pas énormément Facebook ou Twitter ou Instagram, si. En gros, c'est sur Instagram.
Ouais, voilà. Écoutez, donc sur TikTok, j'espère que cette explication vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux si vous ne voulez pas l'utiliser. Mais vraiment, de tous les réseaux sociaux, je crois que TikTok est celui où vous passerez le meilleur moment, même si c'est pas de votre âge. Donc à la limite, autant moi j'adore Twitter parce que c'est des conversations et j'apprécie énormément et c'est celui que je préfère, autant celui qui est vraiment le plus fun, c'est TikTok, et c'est le moins engageant en quelque sorte. La raison pour laquelle on perd beaucoup de temps sur TikTok, c'est pas parce qu'on est énervé et qu'on veut répondre aux gens qui ont tort, c'est que on veut voir une vidéo marrante de plus et on se rend pas compte que ça fait une demi-heure qui est passée. Donc voilà en gros mon explication de l'algorithme TikTok, j'espère que ça vous aura été utile. Un autre truc qui est très utile et dont j'aimerais que vous vous souveniez, c'est le Patreon, patreon.com/rdvtech. C'est là que vous pouvez non seulement soutenir l'émission, mais en plus, d'une certaine manière, vous soutenir vous-même. Comment est-ce que vous vous soutenez vous-même? Eh bien, vous écoutez peut-être depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, le Rendez-vous Tech, et vous appréciez l'émission, vous trouvez qu'on est intéressant, informatif, distrayant même parfois. Et vous vous dites, bah, ces gens-là, ils font du bon contenu. Et vous n'avez pas encore décidé de soutenir sur le Rendez-vous Tech, sur le Patreon. Mais vous pourriez le faire. Vous pourriez, si vous le souhaitez, devenir une personne d'une qualité absolument invraisemblable, une personne qui ne pense même pas avoir besoin de Raya ou d'autres types de réseaux sociaux exclusifs comme ça. Non, parce que vous seriez une personne qui soutient le Rendez-vous Tech. Et oui, messieurs, dames, je soutiens le Rendez-vous Tech et j'en suis fier et j'aide les créateurs, peut-être le Rendez-vous Tech et d'autres créateurs, je les aide à faire du contenu de qualité qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs. Et c'est grâce à vous, messieurs et mesdames, que cette émission existe. Donc, si vous voulez devenir une personne de grande qualité, vous pourriez aller sur patreon.com/rdvtech et soutenir l'émission. J'apprécie énormément votre soutien. C'est grâce à vous que l'émission existe.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, est-ce que vous connaissez le HTC Vive Flow? C'est une bestiole un petit peu bizarre. C'est un casque de VR sans contrôle qui ressemble presque à des lunettes, mais qui a un parc de batterie, un pack de batterie auquel il faut l'attacher, qu'on l'attache à la ceinture. Et c'est un truc qui est donc de la VR uniquement pour consultation de contenu. Je ne vais pas vous cacher que j'en parle parce qu'il ne se passe pas grand-chose autour de la VR ces derniers mois. Mais je suis assez... Et on m'a demandé mon avis sur le truc. Ça coûte $500, donc sans doute autour de 500 euros. Je ne sais pas très bien à quoi ça sert, parce que le problème, c'est qu'on ne peut que consulter des choses, genre voir des vidéos en 360 degrés, ce genre de choses. C'est un appareil d'une bonne qualité technique, il a de beaux écrans, une qualité d'image qui est correcte, etc. Ça ressemble à des lunettes, mais on a quand même l'air d'avoir des sortes de goggles bizarres sur les yeux, parce que c'est presque des jumelles, quoi. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, ce truc-là. Le HTC Vive Flow. Ce n'est pas ça qui va amener la VR pour tout le monde.
C'est assez étrange, ouais. J'ai du mal à comprendre leur positionnement et qui irait acheter ça. Et c'est encore un peu le problème qu'on a, je trouve, avec la VR. C'est que ce n'est pas toujours évident pour le positionnement des différents produits au-delà de certains jeux, etc. Et là, en plus, la compatibilité, vu qu'il n'y a pas de contrôle ou de détection des mains, comme tu l'as dit, je suis très très perplexe. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que l'article de The Verge est très perplexe aussi.
Ouais. Peut-être, tu vois, pour en parler de méditation tout à l'heure, pour faire de la méditation, regarder des films dans l'avion, ce genre de choses. Bon, on prend pas beaucoup l'avion en ce moment. À la limite, pour ce genre de truc, mais.
Je veux bien qu'ils aient rendu le casque plus léger, plus confortable à porter et compagnie, mais faire la méditation avec un casque de cette taille sur la tête ou regarder un film, à moins que ça soit un porno, que t'aies pas envie que ton voisin voit ce que tu regardes. mais bon, tu pourrais penser, tu vois, vie privée, etc. T'as envie de faire plaisir.
Enfin, regarder un film porno dans l'avion, ouais, bon, peut-être.
Voilà, il faudrait que tu restes très, très concentré ou très impassible. Mais écoute, voilà, chacun ses hobbies. Non, on parlait de vie privée.
Malheureusement, j'ai vu ça plus d'une fois, sachant que je suis quand même un gros voyageur. J'ai vu ça plus d'une fois.
Ah oui,
nombre de coups. Ah, mon Dieu. Voilà.
Qui se matent soit des photos ou des films X alors qu'ils sont juste à côté de l'allée.
Je suis choutré là. C'est-à-dire
que même cette population ne serait pas tentée par le Vive, puisque finalement ils sont même pas assez gênés pour ne pas le faire en public.
Mais du coup,
certains ne sont pas suffisamment gênés pour le faire. Non, je suis d'accord. C'est le problème de tout ce qui est réalité virtuelle aujourd'hui, c'est que il y a la technologie qui s'est améliorée, donc la définition, l'autonomie, etc. Mais il n'y a toujours pas le contenu et l'expérience qui va en faire un gros marché. Et ça va prendre encore des années. Alors, est-ce que ce sera 3 ans, est-ce que ce sera 5 ans, est-ce que ce sera 10 ans? Moi, j'ai une paire de boîtes dans le domaine. Et effectivement, même si elles ne fonctionnent pas trop mal, on n'en est pas à des applications qui sont avec des centaines de milliers ou des millions d'utilisateurs.
Et en particulier avec ce modèle-là qui n'a pas donc de manette, donc on peut contrôler à peine avec une télécommande sur son téléphone, mais qui du coup on a les yeux dans la visière, donc on peut pas voir le téléphone, donc voilà. Et il coûte $500 alors que le Oculus Quest, bon, qui est un petit peu subventionné par Facebook, il coûte quoi aujourd'hui, 200, 250 euros, peut-être 300 max, mais bon. Un autre truc intéressant que j'ai vu passer, c'est la manière dont des étudiants utilisent la fonctionnalité de reconnaissance de texte sur iOS 15. Alors, c'est un truc qui existe sur Android depuis un moment, mais évidemment, quand ça arrive sur iOS, il y a des gens qui l'utilisent plus parce que... bref, bon, peu importe pourquoi, c'est des étudiants, en fait, qui sont dans un amphi. On voit la vidéo, c'est très, très drôle. Ils sont dans un amphi, ils prennent les photos des notes compris l'étudiant devant eux sur leur ordinateur. Donc, ils prennent des photos des notes et puis il y a la reconnaissance qui s'affiche. Ils copient le texte et donc ils ont chopé les notes pour eux sans avoir eu besoin de prendre les notes. J'ai trouvé ça assez génial.
C'est ce qu'on appelle les étudiants ingénieux. Ça, voilà. Ça j'aime quand ils détournent la technologie sur des choses sur lesquelles on les attendrait pas. Alors là, en plus, c'est mignon l'exemple parce que c'est la prise de notes, tu vois. C'est pas le copain qui copie le contrôle à côté, tu vois. Mais je trouve ça excellent.
C'est très drôle. Intelligence artificielle, on parlait la semaine dernière dans le l'after show. On ne fera pas d'after show aujourd'hui parce qu'on a des conditions d'enregistrement particulières, mais on parlait de l'intelligence artificielle et de tous les boulots que ça allait remplacer. Juste quelques jours après, Netflix a publié une vidéo de d'un film d'horreur qui a été écrit par un bot, donc une IA a priori, après avoir vu 400 000 heures de films d'horreur. Ça s'appelle « Mr. Puzzles wants you to be less alive ».« Monsieur Puzzles veut que vous soyez moins vivant ». Et je ne peux pas le décrire. Je le mettrai dans la newsletter. Donc, vous pouvez aller vous abonner à la newsletter.
C'est l'AI qui a trouvé le titre parce qu'il est top quand même. Hein.
Écoute, je ne sais pas si c'est lui qui a trouvé le titre, mais c'est très possible parce que quand tu vois la vidéo, c'est exactement ce genre de choses. C'est hilarant. Je ne peux pas le décrire, mais allez le regarder. Ça s'appelle « The First Horror Movie Written Entirely by Bots ».« The First Horror Movie Written Entirely by Bots ». C'est vraiment la vallée de... la Uncanny Valley, qui est quand les graphismes deviennent tellement réalistes qu'on remarque les petites imperfections et donc que ça devient bizarre parce que c'est une personne réaliste, mais avec des imperfections. Alors, on n'est pas tout à fait 100% réaliste, mais tu sens en fait les sources de films d'horreur qui ont été utilisées pour Frankensteiner ensemble ce truc dont les dialogues sont écrits par des bots et qui sont étranges, marrants, et c'est juste cette bizarrerie qui fait que c'est hyper drôle. En plus, ils ont illustré ça, je pense qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Ils ont illustré ça avec des images de synthèse de très mauvaise qualité. Je pense que c'est un logiciel prévu pour ça qu'ils ont utilisé, mais le truc qu'on peut dire, c'est que c'est publié sur la chaîne YouTube Netflix is a Joke, qui est une chaîne de comédie. Donc, ça vous explique de quoi il en retourne, en fait. Mais allez voir ça. Ce que je veux dire, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que les gens qui écrivent des films ont encore de beaux jours devant eux. Ils ne sont pas encore arrivés à un niveau où ils pourraient être remplacés par des IA. Donc, on a encore un petit peu de temps devant nous.
C'est la grosse question de la composition de musique, la composition de livres. Et je pense que la musique sera plus intéressante que les côtés multidimensionnels que les films représentent, quoi.
Ouais.
Donc, je pense que la musique des IA sera plus intéressante, plus vite que le reste.
C'est possible, c'est possible.
Je n'investis pas dans le domaine, pour être clair. Je ne mets pas un sou dans la musique. J'ai perdu trop d'argent depuis 17 ans, donc c'est fini.
Mais, ça me surprend à peine. Et un autre sujet intéressant, par contre, une utilisation plus efficace de l'intelligence artificielle et du deep voice. Le deep voice, c'est la voix qui reproduit une voix existante. On en parlait la semaine dernière. Il y a des criminels qui s'en servent et qui s'en sont servis notamment dans une affaire qui a fait un petit peu de bruit pour détourner 35 millions de dollars. Ils avaient eu accès au compte mail de la personne du président d'entreprise, du chef d'entreprise auquel ils ont volé cet argent. Donc, ils ont envoyé des mails à la banque, etc. Mais ils ont ensuite appelé le banquier pour autoriser le transfert en utilisant une voix qui avait été entraînée sur la personne en question et en lui faisant dire « Oui, c'est bon, vous pouvez faire le transfert ». Le banquier qui connaissait la personne n'a pas compris que c'était un truc artificiel et a autorisé le transfert. Donc, bon, rassurons-nous, les intelligences artificielles peuvent quand même servir à quelque chose. Ouf, ça va bien. En Chine, on vous parlait de Microsoft qui a... Il y a quelques histoires sur ce sujet que je vais lire rapidement. Microsoft avait dû censurer son réseau social en Chine, LinkedIn, bien sûr. Et ça avait fait un petit peu de bruit. Ils avaient dû le censurer, bien sûr, à la demande du parti. Et ils ont décidé de fermer la version chinoise de LinkedIn pour ces raisons. Ils gardent d'autres activités en Chine, mais le réseau social est, bien sûr... Pardon. Le réseau social est l'activité qui serait la plus soumise à ce genre de censure. Mais donc, ils ont décidé de fermer le réseau social en Chine. Donc, ils rejoignent d'autres sociétés qui n'y sont pas présents. Et puis, surtout, au niveau de la surveillance, Moscou a introduit un système de surveillance, de reconnaissance faciale dans le métro. Alors, à la base, c'est l'idée, c'est que ça permet de payer son trajet sans avoir à utiliser son téléphone ou un moyen de paiement, etc. C'est uniquement, ça s'appelle FacePay. Donc, c'est en reconnaissance faciale, eh ben, vous avez associé votre compte bancaire à votre carte de métro sur votre app. Eh ben, quand ça vous détecte, ça va vous faire payer ce qu'il faut. Sauf que, alors le réseau de métro de Moscou est hyper chargé, mais les responsables du réseau de métro ont dit « Vous inquiétez pas, le truc est hyper sécurisé, les informations sont chiffrées, et seul le ministère de l'Intérieur a accès aux données. » Donc ouf, ça va. On est rassuré là. Bon, en même temps, la reconnaissance faciale, c'est pas nouveau. À Moscou, il y a déjà quelque chose comme 175 000 caméras de surveillance dans la ville. Donc, bon, c'est encore un pas de plus vers la reconnaissance faciale omniprésente, comme c'est le cas en Chine, notamment, dans certaines villes chinoises.
Justement, pour rebondir là-dessus, il y avait déjà eu des articles sur les caméras de reconnaissance faciale utilisées dans les parcs pour intercepter les protestants qui se rendaient sur le lieu de la protestation, ou certaines personnes pas forcément du bord de M. Poutine, pour éviter et contenir en fait ce genre de manifestation. Donc en fait, ils l'appliquent pour d'autres usages, pourquoi pas, hein, au point où ils en sont.
Oui, non, mais... c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Mais tu vois, ça veut dire que maintenant, même dans le métro, il y a la reconnaissance faciale partout, c'est Moscou, t'es suivi tout le temps, quoi. Et ouais, d'ailleurs... Ouais. Il y a un sujet qui est un petit peu connexe, parallèle. En Angleterre, il y a des écoles qui ont commencé à faire les paiements pour les repas des enfants, donc dans les écoles, par reconnaissance faciale également. Alors, c'est évidemment moins inquiétant que la manière dont ça se passe en Chine. Mais entre ça et... vous connaissez les controverses sur les sonnettes connectées vidéo Ring, qui est une marque d'Amazon. C'est des sonnettes connectées qui surveillent la rue tout le temps et qui peuvent vous alerter s'il se passe des choses, que vous pouvez ouvrir à distance, etc., etc. Et ben, en Angleterre, un juge a jugé que la plainte d'une voisine d'une personne qui utilisait une sonnette de ce type avait effectivement eu sa vie privée qui avait été attaquée. Et donc que l'utilisation de cette sonnette n'était pas autorisée. Et c'est intéressant de voir ça parce que c'est une question qui se pose depuis maintenant des années que ces sonnettes sont en vente et que la reconnaissance faciale, bon, d'une manière plus large, la reconnaissance faciale est en train, comme on en parlait, c'était théorique il y a quelques années. Maintenant, on voit que bah, dans le métro, dans les écoles, c'est en train d'être utilisé un petit peu partout. C'est assez impressionnant.
Ouais, Jeff, c'est hyper intéressant, notamment...
Pardon, Marion, Jeff doit nous quitter. Ah, oui. Il avait une heure et il doit filer. Oui. Donc, on te fait une bise. Si tu veux ajouter un dernier truc sur la reconnaissance faciale, n'hésite pas. Mais sinon, je sais que tu dois filer.
Non, non, malheureusement, ça fait déjà 2 minutes que mon équipe m'attend pour notre Zoom du matin. Donc, je vous fais la bise à tous les deux et je vous dis à la prochaine fois.
Merci. Merci beaucoup, Jeff.
Merci.
Ciao, ciao. Tu sais, j'ai plus l'habitude, parce que Jeff, c'est vraiment quand c'est l'heure, et j'ai plus l'habitude qu'ils doivent nous quitter, genre à la seconde près. J'aurais dû anticiper. Patrick, bad podcaster, Patrick.
Non, mais faut reprendre le rythme.
Ouais, exactement, exactement. Et donc, ouais, c'est cette question de reconnaissance faciale. Alors, ça date pas d'hier, mais vraiment aujourd'hui, c'est devenu, c'est plus un jour ça va arriver, c'est là, et c'est là pour plein de trucs. Et les questions qu'on devait se poser, bah, il faut se les poser vraiment maintenant, quoi. Est-ce qu'on a le droit de les utiliser? Comment? Dans quel contexte? Est-ce qu'à l'école, ça va? Est-ce que c'est... Parce qu'on... Enfin bon, c'est vraiment des questions qui ne sont pas évidentes. Et...
Oui, c'est intéressant. Et juste la petite chose qui m'a fait sourire, c'est que quand on voit que ce sont des écoles, maintenant, qui utilisent ce système de reconnaissance faciale et que tu sais quand même que... En tant qu'étudiant ou élève, en fait, tu changes quand même relativement vite, quoi. Tu grandis, tu as des boutons, tu as ta tête qui change quand même pas mal. Finalement, on est à un point où finalement, même au niveau des enfants ou des étudiants, c'est suffisamment intelligent pour réussir à reconnaître même cette frange de la population qui évolue quand même à un rythme plus rapide que des adultes, quoi.
Ouais, j'imagine que peut-être qu'il faut remettre une photo chaque année. Et puis, dans une école, la base sur laquelle il faut reconnaître les gens est plus réduite que quand tu mets une caméra dans le métro, tu vois. Il y a quelques centaines d'élèves au plus.
Oui, je suis même pas sûre que t'es... Ouais. Je suis même pas sûre que tu aies besoin de mettre une photo chaque année, parce qu'en fait, tu le nourris à chaque fois que tu passes devant. Donc, en fait, il va être capable de suivre tes micro-évolutions et de dire, bon, non, là, c'est un bouton, c'est pas un grain de beauté, donc c'est la même personne, quoi. Tu vois ? Non, mais pour être un peu dans le cliché...
je ne comprends que trop bien ce que tu veux dire, Marion.
Traumatisme.
Oh, ah oui, non, mais Patrick, c'était particulier quand il était adolescent. Je n'ai pas toujours été cette esthète, cet éphèbe, tu vois. J'ai eu des périodes un peu... J'ai eu des périodes où j'avais les cheveux très longs. Enfin bon, j'ai eu une jeunesse, quoi.
Il y a toujours des âges ingrats pour chacun.
Ouais, donc voilà, pour la reconnaissance faciale, sachez-le, la reconnaissance faciale, c'est un truc qui est partout. OVH, tu sais qu'OVH est rentré en bourse, on n'en a pas parlé ces dernières semaines, mais OVH est rentré en bourse et la question que se pose Numérama, c'est l'Europe a-t-elle enfin une chance de rayonner dans le cloud ? OVH, c'est une société que je suis depuis très longtemps, depuis 2006. C'est chez eux que j'avais pris mon premier site et je suis toujours chez eux. Mon premier site avec azeroth.fr à l'époque, hein, c'était pas hier. Et j'ai suivi leur croissance. Et c'est vrai que c'est quand même une société, alors même s'il y a des pannes ici et là, comme il y en a partout, hein, on en parle plus parce que c'est chez nous, OVH, et donc on s'y intéresse plus, mais c'est une société qui est effectivement une réussite au niveau international. Alors, c'est peut-être pas le plus gros opérateur de cloud au monde, mais ils sont dans le top 10. Et c'est une société qui est vraiment... Enfin, Octave Klabat, il est de chez nous et ils ont réussi à faire une croissance impressionnante. Et ça devient... et ce n'est pas fini, hein, a priori, mais ils ont vraiment une chance d'être l'un des opérateurs de cloud principaux dans le monde. Donc, je voulais quand même en mentionner un mot.
Oui, c'est marrant. On m'en a parlé. Alors, évidemment, on entendait parler justement de l'entrée en bourse d'OVH un peu partout la semaine dernière. Et Jérôme me dit, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire OVH ? Est-ce que toi, tu le sais ?
OVH, non, je t'avoue que c'est je sais pas, c'est peut-être Octave pour le prénom de le. Octave,
alors, je sais
Berry
pas si
High.
C'est,
non, je sais pas.
Ouais, je sais pas si c'est une blague hein, qui m'a sorti, donc j'ai pas vérifié, donc à prendre avec des pincettes, mais ça dirait on vous héberge.
Ah, mais oui, ça me dit quelque chose, effectivement, ouais. Ouais.
Voilà, bah, je le savais pas, et donc voilà, fun fact.
Très bien. Et ils font ça très, très bien. Moi, je suis très content de leur service, et c'est marrant parce que à une époque où j'hébergeais mes podcasts, il y a une époque, héberger des fichiers audio, quand on en faisait télécharger des milliers à la fois, bah, ça coûtait un peu cher sur le web. Et moi, j'avais mon hébergement chez OVH qui marchait super bien et que je payais, je ne sais plus, ça devait être 100 ou 150 euros par an. Et tous mes amis américains me disaient « Mais enfin, comment tu fais, quoi ?» Eux, ils devaient utiliser des services tiers, des trucs qui étaient des services qui hébergeaient gratuitement par philosophie les fichiers qui n'étaient pas faciles à utiliser. Enfin, c'est vraiment, ils ont été très efficaces et très compétitifs OVH. Et encore une fois, moi, j'ai eu de très bonnes expériences avec eux. Donc, je suis content qu'ils réussissent à émerger.
C'était accessible,
quoi.
Ouais, c'était accessible aussi quand on n'était pas forcément ingénieur ou développeur, qu'on s'y connaissait pas forcément beaucoup en hébergement. L'expérience était plutôt ok, enfin largement meilleure que d'autres compétiteurs, quoi.
Tout à fait, ouais. Ouais. C'est rare qu'on ait des réussites objectives comme ça dans le web français et européen. Alors il y en a quelques-unes, mais on pense aussi beaucoup à des choses comme Quant qui n'arrivent pas vraiment à décoller ou ce genre de société. Et OVH, ils réussissent bien, donc c'est notable. Il y a une enquête de The Markup sur Amazon qui est un petit peu en train de faire le tour des cercles politiques aux États-Unis. C'est une enquête qui révèle que des objets, enfin les résultats de recherche sur Amazon placent en priorité des résultats d'objets vendus par Amazon ou exclusivement sur Amazon plutôt que leurs compétiteurs, même quand ils ont plus de ventes ou plus de bonnes notes. Et ça, c'est un truc qui est particulièrement notable parce que Amazon avait assuré ne pas le faire il y a quelques mois devant le Congrès. Et donc, le Congrès est en train de leur écrire en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment important comme histoire parce que c'est de l'abus de position dominante. De la même manière qu'on se rend compte qu'Apple a des publicités, le marché de la publicité d'Apple sur son App Store a explosé suite aux changements qu'ils ont fait sur la possibilité de cibler les gens pour protéger leur vie privée. Comme on n'a plus d'infos sur les utilisateurs d'iOS, eh ben la pub s'est reportée sur l'intérieur de l'App Store et il y a une croissance de genre 3 fois 3 en à peine un an. Sur l'argent dépensé sur l'App Store vers la régie publicitaire d'Apple, parce que c'est eux qui ont les données. Donc là encore, c'est une question d'abus de position dominante, et on creuse encore plus ces sujets. J'avais trouvé ça intéressant.
Ouais, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, si tu prends d'autres marketplaces qui n'étaient pas des marketplaces au départ, qui sont lancés avec leur marque et qui après permettent à d'autres marchands d'enrichir l'offre du site, mais du coup, tu vois, de pivoter un petit peu. Du coup, quelque chose qui était, c'est normal de mettre en avant nos marques, etc., devient un abus de position dominante dans la position d'Amazon. Donc, encore une fois, je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant à retenir, c'est pourquoi on ne va pas attaquer l'un versus Amazon, parce que Amazon aujourd'hui, en termes de part de marché, ça écrase... le marché en lui-même, quoi.
Ouais. Mais oui, c'est ça.
Après, si tu regardes d'autres services, t'as un peu l'impression qu'ils font aussi, quoi. tu vois, je me suis baladée sur La Redoute, par exemple, tu vois. La Redoute, depuis quelques années, c'est une marketplace aussi. Il y a d'autres marques qui vendent et qui vont pas... Et c'est pas La Redoute qui va vendre ou même livrer. C'est carrément ces marques-là. Et en fait, j'ai fait quelques recherches, etc., pour voir quels étaient les résultats qui remontaient. Alors, la première place... C'est pas forcément La Redoute, mais je peux te dire que la seconde ou la deuxième, la seconde, la troisième ou la quatrième, c'est souvent quand même La Redoute, quoi. Mmh. Et donc tu peux te poser ce genre de questions.
Ouais. Alors est-ce que c'est il y a une question de position dominante, il faut qu'il y ait un monopole. Alors sur Amazon, exactement. Ils disent oui, c'est présentation des produits, je sais plus comment ils le tournent exactement, mais enfin c'est pas clair du tout. Clairement, Amazon, ils ont une part de marché qui est très importante. Et on n'y pense pas parce que c'est les résultats de recherche sur Amazon. Tu te dis, est-ce que ça, c'est pas un sujet qui revient souvent, mais c'est complètement un sujet important. Donc, c'était notable.
Ouais.
Donc, voilà pour ces petits sujets. Je note également que dans la newsletter de cette semaine, il y aura un article absolument passionnant sur un hacker qui a fait partie des mouvements pour inonder les réseaux sociaux et les sites web de fake news vers l'élection américaine de 2016. C'est un article vraiment passionnant qui explique la manière dont ça s'est passé. Alors, c'est une des personnes qui a participé à ce mouvement, mais c'est un petit peu lever le voile sur la manière dont ça a fonctionné. Ça sera dans la newsletter. C'était évidemment sur @rdvtech sur Twitter, sur le compte où je fais ma veille. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu, mais sinon, abonnez-vous à la newsletter sur notepatrick.com et vous l'aurez vendredi avec, évidemment, tout le reste de ma veille qui est, j'espère, intéressante et parfois même un petit peu distrayante. Merci Marion d'avoir partagé cette petite heure avec moi. C'était un moment absolument délicieux, comme à chaque fois. Est-ce que tu peux nous dire où les auditeurs peuvent avoir un petit peu plus de Marion quand tu n'es pas dans l'émission?
Bien sûr, avec plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Twitter au compte Isaiah Design ou sinon le mardi matin sur la chaîne Twitch Naotech à 8h, pardon, de 8h à 9h.
Magnifique, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission et donc sur la chaîne Twitch de Naotech à 8h le mardi, hein, c'est ça. Vous pouvez enchaîner du coup à 8h le mardi avec Marion et puis à midi, généralement hein, on fait ça à midi avec Patrick sur Twitch aussi pour le rendez-vous tech en live. Vous avez tous les liens sur notepatrick.com évidemment, les liens vers Twitch, YouTube pour le replay de Twitch d'ailleurs, il y a une chaîne replay YouTube où vous pouvez voir les émissions en vidéo si ça vous intéresse. Vous avez aussi bien sûr la newsletter pour vous abonner sur notrepatrick.com et le lien vers le Patreon, patreon.com/rdvtech, qui, faut-il le rappeler encore une fois, est le moyen de soutenir le rendez-vous tech et le moyen de faire en sorte que l'émission soit possible. Un grand merci à vous tous et à vous toutes, et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.